bien chers confrères, bien chers fidèles, petite annonce pour vous dire que l'objet de cette prédication est en lien avec le thème que suivent nos chères retraitantes actuellement. Tout à l'heure, dans la matinée, bien chères retraitantes, nous avons vu que nous avons pu connaître, que nous pouvons, pardon, connaître l'existence de Dieu par notre raison, par notre intelligence, à partir des choses créées. Des créatures, nous pouvons remonter à notre Créateur. Mais la vie intime de Dieu, la très sainte Trinité, elle, nous ne la connaissons que parce que Dieu nous l'a révélée et que Jésus-Christ nous l'a enseignée. Et si Jésus-Christ nous a révélé ce grand mystère de la Sainte Trinité, c'est évidemment pour notre bien, pour notre utilité. Alors essayons tout d'abord de voir, de nous rappeler ce que la foi nous révèle au sujet de la Sainte Trinité avant de voir nos devoirs envers la Sainte Trinité. Que nous dit la foi ? Notre catéchisme nous dit bien qu'il y a un seul Dieu en trois personnes égales et distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc nous avons bien trois personnes distinctes dans une même unité de nature. Le Père ne procède de personne. Comme nous disons, il est le principe sans principe, le principe premier de toute la vie intime en Dieu. Il est l'origine première de toutes les ineffables communications de la Sainte Trinité. Le Père va se connaître parfaitement. Et cette connaissance intime qu'il a de lui-même, il va l'exprimer en une parole, le Verbe. Le Verbe qui est la seconde personne de la Sainte Trinité. Donc le Père se connaissant engendre en une parole infinie un Fils unique et parfait, auquel il communique tout ce qu'il est, excepté sa propriété personnelle d'être Père. Et le Fils est égal en tout à son Père. Et saint Paul a de très belles expressions pour l'exprimer. Il dit que le Fils est l'expression adéquate, l'image parfaite du Père, parce qu'il possède avec le Père la même nature divine. Donc le Fils reçoit tout de son Père, et le Père donne tout à son Fils. Le Père aime son Fils, puisqu'il lui a tout donné, et le Fils, voyant qu'il a tout reçu de son Père, aime parfaitement également son Père. Et le Père et le Fils vont se donner l'un à l'autre, avec un amour parfait. Et de cette donation du Père au Fils et du Fils au Père, eh bien, va procéder d'une façon mystérieuse l'Esprit Saint, troisième personne. Donc le Saint-Esprit est vraiment l'amour subsistant, l'amour du Père et du Fils. Et le Saint-Esprit va terminer ce cycle des opérations intimes en Dieu. Il est le terme final des communications divines dans l'adorable Trinité. En disant tout cela, nous avons du mal à comprendre, évidemment, la parfaite égalité entre ces trois personnes, parce que nous raisonnons, nous, avec le temps. Mais entre ces trois personnes distinctes, il faut bien affirmer qu'il n'y a ni supériorité, ni infériorité. Et le croire, ce serait une erreur grave. Ces trois personnes sont totalement égales en puissance, en sagesse, en bonté. Pourquoi ? Parce que toutes les trois possèdent également, d'une manière indivisible, la même et unique nature divine avec toutes ses infinies perfections. Et c'est pour ça que toute louange, nous la faisons également aux trois personnes. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alors ce grand mystère, comment l'Église a essayé de l'enseigner à ses fidèles? Eh bien, regardez l'iconographie chrétienne. Depuis les premiers siècles, l'Église enseigne ce mystère de la Sainte Trinité par une image très simple, qui est très parlante, c'est celle du triangle. Nous voyons souvent représenter le triangle Eh bien, le triangle symbolise précisément cette Sainte Trinité. Un seul triangle, mais avec trois angles égaux, trois côtés égaux. Voilà peut-être une image la plus adéquate pour exprimer ce grand mystère. Ou alors, un peu plus proche de nous, puisque c'est devenu le symbole d'une nation, Saint Patrick, en évangélisant ses Celtes, a pris l'image du trèfle. Un seul trèfle avec ses trois lobes, image aussi de la Sainte Trinité. Ces vérités constituent un ineffable mystère dont nous ne pouvons parler qu'en balbutiant. Pourtant, notre Seigneur a voulu nous les révéler. Et rappelez-vous aussi votre histoire sainte, votre catéchisme. La première manifestation publique de la Sainte Trinité s'est produite lors du baptême de notre Seigneur dans le Jourdain. Le Fils, notre Seigneur, est dans l'eau. Les cieux s'ouvrent, une colombe descend, image du Saint-Esprit, et la voix du Père se fait entendre. « Voici mon Fils unique en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » Première manifestation publique de la Sainte Trinité. Et notre Seigneur a voulu faire aussi cette révélation, particulièrement dans ses derniers entretiens avec ses apôtres, la veille de sa passion, afin que notre joie fût complète, dit-il à ses apôtres. Et avant l'ascension, il le dira encore de manière plus explicite, « Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà le langage de la révélation. Nous n'aurions pu arriver à la connaissance de ces choses si elles ne nous avaient pas été dévoilées. Mais le Christ Jésus a voulu, pour l'exercice de notre foi et la joie de nos âmes, nous les faire connaître. Quand dans l'éternité nous contemplerons Dieu, eh bien nous verrons qu'il est essentiel à la vie infinie, qu'il est naturel à l'être divin d'être un en trois personnes. Et le vrai Dieu qu'il nous faut connaître pour avoir la vie éternelle est celui dont nous adorons la Trinité de personnes dans l'unité de nature. Et ce dogme est le dogme central de notre foi catholique, dogme fondamental qui va nous séparer d'ailleurs de toutes les fausses religions. Bien sûr, quand on va dire, par exemple, qu'avec les musulmans ou les juifs, nous avons un même Dieu, là aussi, il faut savoir faire les distinctions nécessaires. Effectivement, il y a un seul Dieu unique en trois personnes qui est le même Dieu pour tout le monde, qui est le créateur de tous les êtres. Objectivement, oui, il y a un seul Dieu pour tout le monde. Mais quel est le Dieu qui est adoré dans les fausses religions? Est-ce le Dieu Trinité? Non. Précisément, les Juifs, les musulmans repoussent ce dogme de la Trinité parce qu'ils imaginent que nous adorons trois dieux, ce qui est faux. Donc, en ce sens, nous ne pouvons pas dire que nous avons le même Dieu que les Juifs et les musulmans. Non, parce qu'ils n'adorent pas le Dieu Trinité. Alors que la vérité du dogme de la Trinité, nous l'avons reçue de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est vraiment le dogme central de notre foi. Alors faisons ces actes de foi, mais maintenant quels sont nos devoirs envers la Sainte Trinité? Eh bien, premier devoir, précisément un acte de foi. Croire très fermement tout ce que l'Église nous enseigne sur ce mystère. Il n'y a rien de plus juste puisque c'est Dieu qui nous l'a révélé. Rien de plus méritoire parce que c'est faire un acte d'humilité et de soumission à la parole de Dieu. Même si notre intelligence ne saisit pas tout, en revanche, elle va adhérer parce que c'est Dieu qui lui a révélé. Et en ce sens, nous faisons un acte d'humilité. Oui, notre intelligence ne peut pas tout saisir. Nous sommes dépendants de Dieu. Acte d'humilité. Et vous avez l'exemple dans cette vie de saint Augustin, qui lui, intelligence suprêmement supérieure, on peut dire, a écrit tout un traité sur la Sainte Trinité, et ce traité lui a procuré beaucoup de travail, au point qu'il marchait le long des plages de Carthage, essayant de réfléchir sur ce grand mystère des trois personnes en une seule nature. Et voilà que, marchant sur cette plage, il voit un petit enfant petit enfant qui fait un trou dans le sable, un simple trou. Et voyant ce trou effectué, saint Augustin s'aperçoit que l'enfant fait un aller-retour entre la mer et le trou. Et dans sa mer, il a un coquillage, et avec ce coquillage, il va prendre l'eau de la mer et il le met dans le trou. Et il fait ainsi de nombreux allers-retours. Évidemment, saint Augustin est intrigué. Mais que fait cet enfant? Que fait-il? 5 fois, 10 fois, 20 fois cet aller-retour. Alors il n'en tient plus, il va s'approcher de l'enfant et lui pose cette question: mais cher mon petit garçon, que fais-tu? Eh bien, vous voyez bien, je vais prendre de l'eau de la mer et je la mets dans mon trou. Mais je veux mettre toute la mer dans ce trou. Saint Augustin: mais mon garçon, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Impossible de mettre toute la mer dans ce petit trou, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Et le petit garçon de regarder saint Augustin: mais vous savez, j'arriverai à mettre toute la mer dans mon trou avant que vous ayez connu, compris parfaitement le mystère de la Sainte Trinité. Et l'enfant de disparaître. Oui, Dieu a permis qu'un ange vienne éclairer saint Augustin pour lui dire: attention, même si on peut voir que ce mystère n'est pas absurde, néanmoins notre intelligence finie ne pourra pas saisir tout ce mystère de la Sainte Trinité. Alors de notre part, ce suppose un acte de foi. Ensuite, acte de reconnaissance envers la Sainte Trinité, parce que c'est Dieu qui nous a révélé sa vie intérieure à laquelle nous participerons un jour et qui nous permettra d'avoir un bonheur infini. Et en même temps, vous remarquerez que tous les sacrements que nous avons reçus à partir du baptême et tous les autres nous sont donnés au nom de la Sainte Trinité. Enfin, dernier devoir, glorifier la Sainte Trinité. Glorifier la Sainte Trinité en conservant dans notre âme son image, image de la Sainte Trinité, et en ne la chassant pas par le péché. Parce que la Sainte Trinité, Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, habite dans l'âme en état de grâce. Nous viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure. C'est qui? Nous, le Père, le Fils et la Sainte Trinité. Donc le Père, le Fils et la Sainte Trinité, le Père engendre son Fils et du Père et du Fils procède le Saint-Esprit dans l'unique instant présent de l'éternité, et cet unique instant se produit dans l'âme en état de grâce. Quelle merveille! Quelle merveille! Alors évidemment, sachons glorifier la Sainte Trinité et ayons cette fidélité à éviter tout péché qui pourrait nous donner le malheur de perdre la Sainte Trinité. Et en conclusion, bien, je terminerai tout simplement par un extrait de cette belle prière de Sainte Élisabeth de la Trinité qui, comme son nom de religion qu'elle a pris, l'indique, avait une dévotion particulière envers la Sainte Trinité. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre action créatrice. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi, pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. Alors demandons toutes ces grâces également par la très sainte Vierge Marie, fille du Père, mère du Fils, épouse du Saint-Esprit, ainsi soit-il.